roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi ? Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, on parle de BD, d'heroic fantasy, de films de science-fiction ou encore de dessins animés. C'est sur Radio Duo et c'est maintenant. Je vais commencer par vous parler d'une BD, de Loisel, Le Tendre et Étienne. Ça s'appelle L'Emprise et c'est le dernier tome en date de La Quête de l'Oiseau du Temps qui vient de sortir. Alors, d'abord je vais me poser une question. C'est vrai que moi je me demande toujours quel est le public de La Quête de l'Oiseau du Temps. Pour ceux qui ne connaissent pas La Quête de l'Oiseau du Temps, c'est un cycle de 4 BD d'Heroic Fantasy sorti dans les années 80-90 qui raconte l'histoire du chevalier Bragon et de sa prétendue fille Pélis. Et ils partent ensemble à la recherche de l'oiseau du temps qui est censé permettre d'empêcher le mauvais dieu Ramor de sortir de sa prison dans laquelle les gentils dieux l'ont enfermé. Moi, je l'ai lu quand j'étais petit, au collège plus précisément, et ça a longtemps été une de mes BD préférées, jusqu'à avoir l'affiche du premier tome dans ma chambre lorsque j'étais jeune adulte. L'histoire initiale, en tout cas, elle est, à mon sens, très très bien, haletante, inattendue, et elle m'a vraiment longtemps fait rêver. Mais, parce qu'il y a, un mais, cette BD aujourd'hui, elle souffre mal la relecture. En fait, elle a vieilli. Le dessin, le rythme, tout a vieilli. La quête, en fait, c'est la matrice de toutes les BD des années 90-2000. Les Lanfeust et autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Troll 2, 3, etc. Tout, la moitié du catalogue des éditions Delcourt et des années Soleil, et des éditions Soleil, qui sont toutes inspirées de la quête de l'Oiseau du Temps, et qui ont justement fait évoluer les standards. Et pour le coup, la quête, aujourd'hui, elle passe pas bien du tout l'épreuve du temps. Le dernier tome de la quête de l'Oiseau du Temps, il est sorti en 87, je crois. Et j'avoue avoir été bien étonné quand j'ai enfin vu sortir, il y a quelques années, la suite de la quête de l'Oiseau du Temps. C'était en 98, donc 11 ans après. C'était un fantasme adolescent qui prenait enfin vie. Annoncé depuis justement la fin du premier cycle, la suite sortait enfin. C'était pas vraiment une suite d'ailleurs, parce que ça se passe avant, mais bon, c'était cool quand même. Bon, c'était plus non plus le même dessinateur, c'était plus Loisel, mais pareil, c'était cool quand même. De toute façon, je l'aime plus autant, j'ai plus l'affiche dans ma chambre, vous vous en doutez. Mais je l'ai quand même ressorti suite à la préparation de l'émission. Bref, quand la suite de la quête de l'Oiseau du Temps est sortie, la curiosité était là. 11 ans après la fin de la quête, on retrouvait Bragon. Passé les retrouvailles, est-ce que c'était bien ? Ça allait, mais c'était quand même vachement moins fort. C'était juste sympa. Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais ils ont encore attendu 10 ans avant de sortir la suite de la suite, mais là, pour le coup, c'était vachement mieux. Ils ont encore changé de dessinateur, mais ils ont réussi un petit tour de force. Faire une nouvelle histoire qui pouvait intéresser un novice, mais qui pouvait aussi contenter le vieux fan, en fait racontant la légende du Chevalier Bragon, le personnage principal du premier cycle. Donc c'était un mélange entre nouveautés et les anciens codes. Le ton était trouvé, et ils l'ont plutôt bien déroulé jusqu'à aujourd'hui, avec un tome 5 ou 9, enfin c'est un peu comme Star Wars, c'est un peu compliqué au niveau de la numérotation, mais qui vient de sortir, et c'est celui dont je vous parle. Allez savoir pourquoi, ils mettent quand même environ 4 ans pour faire un nouveau tome, dans un monde où on regarde une série de, je sais pas, 18 épisodes en un jour et demi. Ça fait quand même réfléchir. En plus, Loisel et Le Tendre changent de dessinateur à chaque fois. Mais bon, ça tient la distance au niveau dessin, parce qu'à mon avis, ils doivent les torturer pour que ça ressemble au dessin de Loisel, au dessin initial. Aujourd'hui, on en est au tome 5, ça s'appelle L'Emprise, je me répète. Bragon est censé être mort à la fin du tome 4, on s'en doute il ne l'est pas, sinon il n'y aurait plus de quête. Et on va encore découvrir un élément important de la légende du personnage. Bon, pareil, j'ai un peu l'impression de me répéter, mais je trouve qu'on est loin du souffle épique qui traverse le cycle principal de la quête. Mais je vais pas bouder mon plaisir. J'aime découvrir l'histoire de Bragon, je trouve ça assez fort, et même si je trouve que les deux derniers tomes sont lents, l'histoire avance quand même. Mais je reviens à ce que j'ai évoqué au début. Qui, aujourd'hui, lit la quête de l'Oiseau du Temps ? Je sais que c'est difficile aujourd'hui d'intéresser un ado à la quête. Les mangas sont passés par là, le dessin fait assez peu envie face à un Lanfeust ou à un autre, enfin dans ce style en tout cas. Et pour le coup, je trouve que cette suite colle plus à ce qui pourrait se faire aujourd'hui dans le style. Elle est plus à même d'attirer les jeunes. Mais le rythme de parution joue en sa défaveur. Donc on reste en fait sur une fibre nostalgique. On a affaire à une espèce de reboot, mais comme l'original était tellement fort, et il a tellement marqué son temps, on a affaire à une autre BD qui est moins bien. Et la légende n'est plus aussi clinquante. Bon, il continue à en sortir, donc c'est que ça doit marcher. En même temps, moi je continue à les acheter. Donc en fait, je crois que je me pose bien trop de questions. Thank you. c'était le thème principal de New York 1997 par John Carpenter. Pour le coup, si j'ai choisi de passer ce morceau, c'est parce que autant avant, tant qu'à parler de fantasy, je me suis dit, ben maintenant, autant parler un peu de science-fiction. Et comme j'ai pas lu de roman de science-fiction récemment, même si je suis en train d'en lire un en ce moment, eh ben je vais vous parler de celui qui traîne à côté de mon lit. Et celui qui traîne à côté de mon lit, ça s'appelle Les films de science-fiction par Michel Chion, d'où la BO de New York 1997. Des fois, pour le coup, je me fais un peu l'impression d'être une caricature de garçon parce que je lis quasiment que des BD. J'aime la SF, l'heroic fantasy et les films d'action. Heureusement pour moi, je suis pas un fan hardcore de Star Wars et je préfère Starship Troopers. Bon, j'aime pas Dune, mais j'aime beaucoup Bresson et Pasolini. Ouf, je suis pas passé loin. N'empêche qu'à côté de mon lit, j'ai pas les écrits sur le cinématographe de Bresson, ni l'intégrale du théâtre de Pasolini, j'ai les films de science-fiction de Michel Chion. En fait, je crois que je suis un geek. Alors oui, j'aime la SF, même si je me doute que ce qu'il y a dans les livres de science-fiction, justement, n'arrivera jamais. Mais bon, je sais pas pourquoi, j'y crois quand même. Je suis sûr que ça va se passer, même si la date n'est pas bonne, je me dis que c'est possible. Donc j'adhère automatiquement, un peu comme un voyage en Afrique ou dans une autre partie du monde. Revenons à nos moutons. Donc Michel Chion, c'est un nom qui est un peu connu pour tous les cinéphiles, pour les fans de Twin Peaks et les fans de David Lynch aussi. Mais il s'avère que c'est aussi un compositeur de musique concrète qui fait partie du GRM et qui apparemment a pas mal théorisé sur la musique concrète. Mais bon, ça doit quand même être aussi un geek, parce qu'écrire un livre sur la science-fiction, ben voilà quoi, en fait on se retrouve entre nous. Mais un geek vieux quoi. Donc on a là un livre un peu costaud, qui doit bien faire dans ses 400 pages et qui traite des films de science-fiction. Abondamment illustré, le livre se décompose en chapitres. Il s'attarde d'abord sur un historique de l'apparition de la science-fiction dans la littérature, ensuite sur une typologie des différents types de science-fiction, et ensuite, il se lance dans le vif du sujet avec une analyse des films à travers l'histoire du cinéma, des films de science-fiction qu'il décortique et il s'appuie en fait sur ce que disent ces films de l'époque qui les a générés. La première partie, donc pour le coup, elle est assez implacable, en mode je présente mon travail. Je pose les bases et ensuite je développe. Je vais pas plus revenir que ça sur le contenu, parce qu'en fait, ce sera un peu trop long, il décrit des centaines de films, c'est particulièrement pertinent. Le travail de toute façon de Michel Chion est toujours pertinent. L'éclairage qu'il donne à certains films via sa sélection permet vraiment d'aborder le style de manière complète, éclectique et intéressante. Mais en fait, quand même, je me demande dans quelle mesure ce livre peut convaincre ou emmener quelqu'un vers la science-fiction, quelqu'un qui n'est pas fan de science-fiction. En attendant, les filmographies sont détaillées pour chaque période abordée, ça part de 1960 jusqu'à 2000. Mais c'est un peu là la force et la faiblesse d'un livre pareil. Moi, j'appelle ça un livre de bibliothécaire. Aujourd'hui, quel est le sens d'un livre comme ça face à un site comme senscritique.fr? Sens Critique, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui va classer tout et n'importe quoi, pour le coup. Donc si on veut un film de science-fiction, on va taper 25 meilleurs de science-fiction sur Internet et on va trouver les 25 meilleurs films de science-fiction classés d'après Sens Critique. Il y a l'affiche, il y a le réalisateur, il y a l'année, point barre. Pourquoi c'est les meilleurs? On sait pas. Tout ça sort, on sait pas. Mais on a un classement et des films de science-fiction. Point barre. Le livre de Michel Chion, c'est l'inverse. Chaque chose, chaque choix est justifié. Chaque photo est commentée, etc. etc. Mais il y a quand même un problème, ce livre. À peine il sort, il est déjà daté. La dernière édition, elle date de 2009. Alors autant vous dire qu'en termes de science-fiction, il s'est quand même passé des choses. De là à dire que ce livre ne sert à rien, il n'y a qu'un pas. C'est chaud quand même, il y aurait sûrement à réinventer quelque chose au niveau de ce genre de livre, et surtout au niveau de ces histoires de classement, parce que ce livre est 20 000 fois mieux que Sens Critique ou Allociné, mais il ne peut pas rivaliser face à la et ça en dit long sur la manière d'appréhender le cinéma aujourd'hui. Au final, ça craint. En fait, le futur et la science-fiction, bah, c'est super cool, mais quand ça se réalise, je crois que ça craint. On va s'écouter un autre morceau de musique, pareil de la science-fiction, et on revient juste après. C'était donc le thème du film de René Laloux, La planète sauvage, avec le morceau Désomisation 2. Et comme le hasard fait bien les choses, le livre dont je vais vous parler maintenant s'appelle Les mondes fantastiques de René Laloux par Fabrice Blin. Alors, de quoi il retourne donc dans ce livre ? C'est un livre d'entretien avec le cinéaste René Laloux. René Laloux, c'est le réalisateur de trois films, des dessins animés, de science-fiction, qui s'appellent La planète sauvage, Les maîtres du temps et Gandhar. je ne peux pas parler pour les autres, donc je vais vous parler de moi. Pour le coup, je me souviens très bien de mon premier contact avec René Laloux. C'était une adaptation BD du Maître du Temps, des Maîtres du Temps, qui traînait à la bibliothèque. Je regardais que les dessins à l'époque parce que j'aimais pas lire, mais je rêvais de voir le film tellement les images étaient belles. Mon deuxième contact, c'était bien plus tard, quand j'ai vu Gandahar sur Canal+, et je me souviens l'avoir enregistré et l'avoir vu et revu un nombre incalculable de fois. L'histoire me fascinait, les dessins aussi, la musique, tout. Tout était parfait. C'était la science-fiction parfaite. D'un côté, il y avait Star Wars, et de l'autre, il y avait Gandahar. Et puis, je vais en profiter parce que comme il y a un Star Wars qui sort bientôt, sachez qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je préfère Gandahar. À l'époque, je l'aurais peut-être pas dit, mais là, aujourd'hui, je le dis. Tout ça, ça m'a amené à voir La Planète Sauvage un peu plus tard. Et là, c'était bon, j'avais vu la trilogie de René Laloux, mais je ne savais rien de lui, à part qu'il faisait des dessins animés de science-fiction de toute beauté, poétique, esthétique, super différent de tout ce qui passait, de tout ce qu'on pouvait voir, avec des artistes comme Topor ou Moebius, c'est-à-dire vraiment des grosses, grosses pointures. On était vraiment loin de Walt Disney. Et donc, autant vous dire que quand ce livre est sorti, je me suis rué dessus. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore dispo, mais bon, vous pouvez toujours m'écrire, et puis je pourrais vous le prêter. Alors, le livre, il présente de manière chronologique la carrière de René Laloux à travers une série d'entretiens menés par Fabrice Blin, qui est journaliste et fan de l'homme, mais qui a surtout eu la chance de le rencontrer. Il est illustré d'images du film, des croquis préparatoires, et est ponctué aussi d'entretiens avec, pour le coup, tous ceux qui ont pu dessiner pour René Laloux, Topor, Moebius, un chef d'animation roumain, je crois, je me souviens plus bien. Et on aborde, pour le coup, à chaque fois, l'histoire précise de la fabrication de ces films. Et il y a de quoi raconter, parce que faire exclusivement des films d'animation de science-fiction en France dans les années 80, ça relève quand même du sacerdoce. Et franchement, quand on regarde d'aujourd'hui, 3 films pour une carrière, c'est quand même pas beaucoup. C'est que ça a dû être bien compliqué à monter. Donc voilà, film par film, René Laloux nous raconte la genèse, la création, le déroulement du tournage. Ce qui en ressort d'ailleurs, c'est que pour chaque film, le film de départ ne correspond jamais, le film à l'arrivée ne correspond jamais à l'envie de départ, et pour le coup, il n'est jamais satisfait. Mais bon, c'est pas à moi qui dois dire ça, parce qu'au final, même avec les défauts, je considère ces films parmi les plus beaux réalisés. Dans ce livre, je regrette juste que l'auteur, donc Fabrice Blin, n'ait pas assez approfondi tout ce qui concerne les motivations et la conception qu'a René Laloux du cinéma. Il reste quand même un document très 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 important, parce que l'œuvre de René Laloux est magnifique, on n'en parle pas assez, et en fait il faut la documenter. Et pour le coup, je vais faire un peu de science-fiction, j'espère que quand on sera tous morts, et que les extraterrestres trouveront la Terre vide, mais avec des cinémas qui tourneront à vide de manière automatique, et ben ce seront les films de René Laloux qui seront projetés, et qu'ils se diront qu'en fait, et ben finalement, on n'est pas si pourri que ça. Spécial cadeau de Noël, tiens, ça l'aurait peut-être fait. En même temps, c'est pas trop mon truc, donc je passe mon tour pour cette fois. Je vous ferai une spéciale livre pour le nouvel an, ce sera pas plus mal. En attendant, j'ai plein de livres à lire au bord de mon lit, et je vous en parle bientôt sur Radio Libre. À bientôt.